Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Intensification de la crise politique en Guinée-Bissau, le Premier ministre limogé par le président José Mario Vaz dans le mandat expiré refuse de quitter son poste. Et le nouveau Premier ministre désigné est désavoué par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Bagassi Koura.
Le président José Mario Vaz a démis lundi soir le gouvernement d'Aristide Gomez et nommé mardi Faustino Imbali Premier ministre. Défiant le décret présidentiel, M. Gomez a réuni hier le cabinet déchu et a dénoncé des agissements visant à instaurer un désordre total en vue de la présidentielle du 24 novembre. La CEDEAO, qui a chargé en juin le gouvernement de M. Gomez de préparer la présidentielle, a déclaré hier le décret présidentiel illégal. Samedi, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation de l'opposition pour réclamer le report de l'élection. Le président Vaz, dont le mandat de 5 ans s'est achevé le 23 juin, brigue un second mandat. Il a fait état lundi d'une grave crise politique pour justifier le renvoi du gouvernement. M. Vaz a été exclu du PAIGC après avoir congédié du poste de Premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef de ce parti. Il avait encore refusé de le nommer à la tête du gouvernement après les législatives de mars. M. Gomez, qu'il avait finalement accepté de reconduire sur proposition de la CEDEAO, est lui aussi membre du PAIGC.
Afrique de l'Ouest toujours, la Côte d'Ivoire a déposé une demande auprès de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président Laurent Gbagbo. L'ancien chef d'État ivoirien a été acquitté en première instance des accusations de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Mais il reste en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure de la CPI. Pays Fatou Bensouda. La requête du gouvernement ivoirien semble de nouveau diviser la Côte d'Ivoire, engagée dans un processus de réconciliation nationale. Irénée Ramanongbo a discuté de ces développements avec le professeur Niaka Lagoke, maître assistant à Lincoln University en Pennsylvanie, ici aux États-Unis.
J'étais à la fois surpris et pas du tout surpris. Surpris que le régime de Alassane Draman Ouattara ait décidé de s'exposer de cette façon. Et je ne suis pas surpris parce que c'est des choses qu'on savait depuis le début.
Pourquoi, à votre avis, l'État ivoirien s'oppose-t-il à la libération sans condition de M. Gbagbo?
Oh, c'est assez clair parce que M. Alassane Draman Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire au nom de la Charte du Nord après avoir dénoncé être victime de l'ivoirité et qu'il a l'intention de perpétuer son régime ou son système à la tête de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, de retour sur la scène politique, cela va déranger ses plans et donc c'est aussi simple que cela. Donc il faut l'écarter.
Mais le gouvernement, les autorités d'Abidjan parlent de réconciliation et il y a plusieurs initiatives qui sont en cours dans le pays. Pourquoi avoir peur d'un retour de Gbagbo?
Non, mais M. Alassane Draman Ouattara, depuis bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir, n'a pas envie d'une véritable réconciliation. M. Ouattara ne peut pas diriger dans un environnement démocratique. Et pour ceux qui ne le savent pas, M. Alassane Draman Ouattara est celui qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire pour imposer sa candidature. Il est celui qui a utilisé la violence et la guerre en 2011 pour qu'il devienne le président effectif de la Côte d'Ivoire.
Non, mais c'est vous qui l'affirmez que c'est lui qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été démontré.
Oh non, bien sûr, même aujourd'hui, Soro Guillaume, qui était son homme de main aujourd'hui, ça fait plusieurs déclarations que ils ont fait cela au nom de M. Alassane Draman Ouattara. C'est le même principe que des polichinelles, c'est des faits, ça est partout que la responsabilité de M. Ouattara a été établie dans les deux incidents dont je viens de parler. Donc pour moi, quand on parle de la Côte d'Ivoire de demain où on doit être réconcilié, on doit être d'accord sur les valeurs communes, et il faudra aussi que des gens aient le courage de dénoncer les travers des uns et des autres. Autant on situe la responsabilité historique et politique de tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, autant aujourd'hui, si on doit penser à la réconciliation, la responsabilité première incombe au premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire.
Qu'auriez-vous espéré du président Alassane Ouattara pour confirmer un réel processus de réconciliation à Abidjan?
Sous la pression interne en Côte d'Ivoire et la pression des puissances internationales, M. Alassane Draman Ouattara a finalement décidé de libérer Mme Gbagbo et près de 800 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il continue sur cette lancée. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tous ceux qui ont des points de vue divergents en Côte d'Ivoire, d'une façon ou d'une autre, ils commencent à avoir des problèmes avec l'appareil judiciaire de M. Ouattara. Et la dernière chose pour terminer, ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec la demande de non-mise en liberté de Gbagbo Laurent, ce n'est pas que ça. Ils ont fait un autre procès de la CAF de la Bessaoua à Abidjan. Ils ont confirmé les 20 ans qu'on avait donné à Gbagbo. Ils ont ouvert aussi un autre procès contre Blégoudé. Bon, vraiment, c'est une aberration. Et là, nous sommes inquiets par rapport aux élections de 2020.
Le professeur Nyaka Lagoke, maître assistant à Lincoln University en Pennsylvanie, ici aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le combat anti-djihadiste dans le Sahel. Au Nigeria, deux organisations humanitaires distribuant de l'aide aux populations affectées par les attaques djihadistes dans le nord-est du pays n'ont toujours pas reçu le feu vert des autorités pour reprendre leur programme d'assistance. Les bureaux de l'ONG humanitaire française ACF, Action contre la faim, et de l'ONG internationale Mercy Corps dans la région ont été fermés par l'armée nigériane le mois dernier. Et les autorités accusent ACF en particulier d'avoir aidé et encouragé les djihadistes en leur fournissant des vivres et des médicaments. Résultat, les deux ONG ont interrompu tous leurs programmes d'aide et la situation n'a pas changé malgré les déclarations du secrétaire général adjoint de l'ONU, Mark Lowcock, qui dit avoir reçu lors de sa visite à Abuja la semaine dernière l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités d'ACF et de Mercy Corps serait bientôt levée. Depuis, pas de commentaires de l'armée nigériane sur le calendrier de reprise des programmes d'aide. Afrique centrale maintenant, au Cameroun, alourdissement du bilan du glissement de terrain qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Bafoussam, à environ 300 km de Yaoundé, dans la région de l'Ouest. Deux sources officielles ont fait état maintenant de 41 morts. Notre correspondant Emmanuel Jules Ntap fait le point.
Les fouilles dans les décombres, entamées dans la nuit de lundi par les populations et les sapeurs-pompiers, se sont poursuivies. Selon les autorités administratives locales, 22 corps ont été retrouvés dans les décombres, dont 12 déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Parmi les victimes, il y a une famille de 9 personnes, le père, la mère et les enfants, confient à VOA Afrique, une source médicale. Au moins 34 personnes manquaient encore à l'appel. Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest, rapporte que dans la nuit de lundi à mardi, au lieu dit Nkwashi Pamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, 13 maisons ont été emportées par l'avalanche de la boue après des pluies torrentielles. Il pleut sur la ville de Bafoussam depuis 3 jours. J'ai suivi un grand bruit vers 22 heures. Lorsque j'ai accouru, j'ai trouvé que les plantations, le bétail, les maisons ont disparu, témoigne Albert Kenyé, un rescapé et riverain. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Un officier de l'armée américaine, membre du Conseil de sécurité nationale, a témoigné mardi à Washington devant les enquêteurs de la Chambre des représentants, qui essaient de déterminer si le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un possible rival démocrate au présidentiel de 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. Les détails avec Eric Maniakiza.
Le lieutenant-colonel Alexander Windman a dit avoir été tellement préoccupé qu'il a alerté ses propres supérieurs. « Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement enquête sur un citoyen américain. J'étais inquiet des conséquences pour les liens entre les deux pays et la sécurité des États-Unis », a-t-il expliqué. Le lieutenant-colonel Windman a écouté l'appel téléphonique du 25 juillet entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un Américain d'origine ukrainienne et un ancien combattant blessé pendant la guerre en Irak. Avant son témoignage, le président Trump avait écrit sur Twitter n'avoir jamais entendu parler de lui, l'accusant d'être un apôtre du tout sauf Trump, une allusion aux républicains qui lui sont hostiles. Jeudi, la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, votera pour la première fois en séance plénière pour formaliser l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution et autoriser des auditions publiques. Une résolution à ce sujet prévoit de permettre au président Trump de se défendre à condition qu'il coopère à l'enquête, selon une copie rendue publique mardi. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé une arnaque.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.